La lotte au fond de la rivière au courlant se cache dans les végétations aquatiques. La lotte au corps marbré et à la longue nageoire postérieure à rayons mous semble dormir. Caché dans une fissure de roche, au fond de la rivière au cours lent, c'est-à-dire au courant pas trop fort, pour la lotte à lotte à lotte, qui peut ainsi dormir tranquillement, ou faire semblant tranquillement de dormir, ou nager tranquillement, dans le sens ou pas du courant. Surtout, elle doit rester tranquille. Tout du moins paraître, rester tranquille, sembler dormir, comme le cours lent de la rivière, sembler semblable au cours lent et tranquille de la rivière. Qu'on ne fasse pas la différence entre la rivière et la lotte. Que la lotte se fasse oublier, abritée dans un trou, au fond de la rivière au cours lent. La lotte à lotte à lotte, au cours lent, au rayon mou, mais à la tête large, avec un long barbillon au menton, et un petit palpe sensoriel à chaque narine. La lotte ne dort pas vraiment, puisqu'elle doit toujours être en éveil pour observer et se tenir prête. Elle doit faire semblant de dormir pour ne pas susciter la méfiance, ni attirer l'attention. La lotte marbrée doit se confondre avec les pierres du fond de la rivière, avec la végétation du fond de la rivière, avec les trous du fond de la rivière, avec la rivière, avec le cours lent de la rivière, avec la rivière qui, elle, dort vraiment. Rampant le long de la rivière, la couleuvre à collier, dans son parcours sinusoïdal, trempe en partie son corps écailleux, zébré de blanc et de noir, digérant très lentement la grenouille qu'elle a avalée un peu plus tôt. Elle aime beaucoup les grenouilles, elle l'amuse beaucoup. Et elle aime bien les avaler. Elle aime leur expression stupide qu'elle trouve très drôle, notamment quand elles comprennent qu'elles sont fichues, parce qu'elle vient de les attraper d'une détente rapide et d'un coup de mâchoire définitif. Les grenouilles ont alors une expression de surprise, mêlée à la bêtise. Elles restent couettes, la bouche bée et les yeux grands ouverts, globuleux, implorants, incrédules. Elle projette alors autour d'elle une bonne quantité de gouttes d'eau en agitant leurs pattes palmées dans tous les sens et de toutes les forces de leurs cuisses dont elles sont si fières et qui sont pourtant si misérables quand il s'agit d'échapper à la rapidité et à la concision de la couleuvre écaille. La couleuvre écaille, quand elle est attaquée, elle a de la gueule. Elle se gonfle d'air, siffle mort. Chie un liquide puant à la face de l'adversaire, montre sa gueule ouverte menaçante. Et si vraiment ça ne suffit pas, elle fait la morte. Pour que l'attaquant s'en désintéresse. Tout du moins n'est pas la fierté de croire l'attraper vivante. Ce qui n'empêchera pas l'hermine de la saisir par le cou un jour ou l'autre. Il savait bien qu'il fallait se méfier de cette hermine, cette fouineuse enjôleuse, retournant son pelage en fonction de la température et de son environnement. Brune à la saison chaude, blanche à la saison froide. Tellement nombreux sont ceux à s'y être laissés prendre, la croyant blanche comme neige. La traîtresse et séductrice Hermine, dont le regard faussement innocent peut passer en un éclair à une invitation tentatrice, à la luxure la plus indécente. Pourtant, personne, aucune espèce d'animaux, n'a échappé à sa trahison mortelle, à son baiser fatal. Morsure sans retour, sur la nuque de celui qui pensait avoir conquis son amour et sa vérité, ou tout du moins sa complicité. Mais nulle alliance véritable n'est possible avec l'hermine, car le poison de l'infamie coule dans ses veines. C'est la déception des autres qui la fait jouir. Le regard de celui qui comprend qu'elle le trahit, qui la nourrit. Plus que sa chair que pourtant elle dévore, éclaboussant de sang, son convoité pelage blanc. Témoins nombreux de ses exactions, les martinets noirs survolent villes et campagnes, inlassablement, mémorisant scrupuleusement ce qu'ils voient, paysages, habitants, événements, se les communiquant en groupe de leurs cris stridents. Et les communiquant parfois aux jaseurs qu'ils croisent de temps en temps. Ce jaseur dont le rôle n'est pas bien connu, qui traîne souvent dans des lieux inattendus. Le jaseur, toujours en vagabondage, une goutte rouge au bout de chacun de ces rémiges secondaires. Difficile de savoir ce qu'il mijote. Il récolte des informations, probablement, et il en donne, sans doute. Il doit savoir des choses que peu d'animaux savent. Il doit savoir faire des liens entre des choses qui semblent ne pas en avoir, à moins que ce soit lui, ce lien entre ces choses ou ces animaux ou ces événements, entre ces martinets noirs et ces hermines blanches. Il doit même en savoir sur le couple de tétralyres qui niche dans les marais et qu'on a aperçu l'année dernière dans la forêt, beaucoup plus loin, en amont de la rivière, au Lancourt. Par contre, pas sûr que le jaseur puisse comprendre grand-chose aux danses curieuses et virevoltantes de l'épial Vélède et du Cossus Gâtebois, du grand sphinx de la vigne et de la phalène du Sureau, et encore moins de l'azuré du Serpollet ou du cuivré écarlate. Tous ces papillons qui semblent pourtant signifier quelque chose. Ces couleurs disparates et tournoyantes doivent bien avoir un message à faire passer. Un code secret que certains appellent beauté. Comment le jaseur pourrait-il le décrypter? Personne ne semble lui en avoir donné la clé. Et le plus intrigant de ces papillons continue à voler et à butiner. Le miroir